La tête dans les étoiles. 14h30, 16h, avec Laurent Boyer sur RTL.
Et RTL.fr sur laquelle d'ailleurs le site sur lequel vous pouvez voir la photo qu'on vient de prendre avec Bernard Werber. Voilà, vous verrez Bernard aujourd'hui, elle a été prise il y a 5 minutes, elle est déjà en ligne sur le site RTL.fr, vous cliquez la tête dans les étoiles. Et au sujet de RTL.fr, notez que c'est le premier site radio de France. Les résultats sont tombés ce matin, l'audience de RTL.fr a progressé de 43% par rapport au précédent et vous êtes sur le premier site radio de France. Merci à vous de nous suivre en radio puisque c'est la première radio et maintenant le premier site radio de France. Sur lequel d'ailleurs vous pouvez aller RTL.fr. Si vous n'avez pas lu le livre de Bernard Werber, eh bien sachez qu'on vous met directement en relation avec les grands distributeurs et vous pouvez commander votre livre directement sur RTL.fr. Ça vous emmènera au site le plus proche chez vous pour commander et recevoir votre livre à la maison. Le miroir de Cassandre, roman de Bernard Werber, paru aux éditions Albin Michel, le nouveau roman de Bernard Werber, 10 millions d'exemplaires vendus en France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, une fois de plus, Bernard Werber nous emmène à travers ce roman que j'ai lu cette semaine, en plusieurs fois parce que ma foi, il est conséquent, c'est une somme. J'allais dire, c'est un conte, oui, rien qu'à l'évocation du titre, Le miroir de Cassandre, et ça commence par « Il sera une fois ». Je trouve ça très joli parce qu'il était une fois, il sera une fois, le miroir de Cassandre, on est carrément dedans, on se dit tiens, et on lit par exemple des petites abréviations ou des exemples en exergue de Lao Tzu avec « on peut faire des prévisions sur tout, sauf sur l'avenir » ou encore à la fin du livre en épilogue, pareil, un proverbe, un apophthegme de Kim Ye Bin qui dit « on peut faire des prévisions sur tout, y compris sur l'avenir. »
Et quand voilà, c'est la réponse.
C'est la réponse. C'est formidablement fait. Il y a le petit clin d'œil. Et c'est vrai qu'on se rend compte de ça à l'issue du livre. Alors, il faut dire que c'est un roman. Ça commence avec une histoire un peu bizarre d'un monsieur qui est en haut d'une tour, mettons la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, d'ailleurs, vous y venez à la fin en disant que c'est un fait divers qui est arrivé, enfin que vous avez vu à la fin du livre,
qui s'est produit après que j'ai terminé le livre.
Voilà.
Mais enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui se suicident en haut de la tour Montparnasse. Mais la première scène, c'est un homme qui s'élance du haut de la tour Montparnasse.
Voilà, et qui va descendre, et vous savez cette fameuse blague, quoi, qui descend et qui va voir toutes les vitres et toutes les fenêtres, et qui va arriver en bas. Logiquement, il y a un détail de seconde qui fait qu'à l'arrivée, forcément, quand on jette de la tour Montparnasse, à l'arrivée, ben, on est un peu liquide. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose pourrait changer tout ça? Une espèce de chaos du temps qui fait que, est-ce que la prévision est possible ou pas? Alors, je ne vous raconte pas le détail qui fait qu'il a une montre qui fait que son retard par rapport à la mort...
Voilà, au fur et à mesure qu'il descend...
Le pourcentage,
il a une montre spéciale, oui. Qui est une montre qui n'est pas magique parce qu'on pourrait pratiquement la fabriquer. C'est une montre qui permet de savoir les chances de mourir dans les 5 secondes suivantes.
Voilà.
Et au moment où il s'élance, il regarde sa montre et... Au fur et à mesure que les étages défilent,
forcément,
le pourcentage de mourir augmente.
Oui.
Et juste avant de toucher le sol, tout d'un coup, ça passe de 90% à 30%. Et pile à 7 secondes, un camion rempli de matelas mousse passe et encaisse le choc.
Voilà.
Ça, c'est la première scène, c'est la première page.
Voilà.
Et à ce moment-là, il pense qu'il est sauvé, si ce n'est que sa montre remonte d'un coup et remonte à
94. 90, ouais.
Et là, il y a un camion qui percute son camion.
Un camion
citerne.
Voilà.
Et ça, c'est la première scène. Je voulais un truc très choc qui montre le rapport au temps, ça peut être un truc de survie immédiate. Pas juste, on pense que dans le futur, il va arriver des choses. Non, non, se poser une question sur le futur, ça peut être une question de survie.
Et
c'est
là,
ça qui m'amusait.
Et là, on rentre tout de suite. On part quelques chapitres, hein, parce que c'est chapitré avec une phrase parfois. Et on rentre dans un détail. On se retrouve avec une jeune fille qui est devant son prof,
voilà.
Qui s'appelle Cassandre, cette belle jeune fille. Et le prof va lui raconter une histoire. Je ne peux pas raconter le détail du livre parce que c'est sur l'anticipation, l'environnement, projeter dans l'avenir. Il va lui raconter l'histoire de Cassandre.
De l'antique Cassandre.
De l'antique Cassandre. Alors, il faut dire qu'elle a été baignée par les dieux et qu'elle avait ce pouvoir de lire l'avenir. Mais elle a fait une bêtise. Elle n'a pas cédé au dieu quand le dieu
Apollon.
Est venu. Apollon, quand il est venu demander son dû, c'est-à-dire une petite histoire avec elle, elle a refusé. Si bien qu'il lui a dit, tu vas prévoir l'avenir, mais écoute bien, je vais te punir, tu vas prévoir l'avenir, tu vas dire aux gens ce qui va leur arriver, mais personne ne te croira.
C'est le drame de Cassandre,
c'est
le drame
de
toutes les Cassandres. Mais si on regarde tous les visionnaires du passé, chaque fois, tous les gens qui ont dit « Attendez, je crois qu'on devrait faire ça parce qu'on va avoir un gros problème », n'ont jamais été écoutés quand ils ne se sont pas fait tuer, comme c'est le cas de beaucoup de savants et de gens comme Nostradamus qui ont été poursuivis par l'Inquisition. C'est-à-dire que le fait de voir le futur, en fait, ça embête tout le monde. Et ceux qui disent, qui veulent avertir, au bout d'un moment, on a juste envie de les faire taire. Et c'est le drame de mon héroïne, elle a 17 ans, elle voit le futur et personne ne l'écoute et tout le monde veut la faire taire. Et donc l'histoire va être vécue dans sa peau, dans la peau d'une visionnaire qui essaie de communiquer. Et c'est peut-être le drame de tout le monde, c'est on sent les choses mais on ne peut pas en parler parce que les autres ne sont pas prêts d'écouter. Il faut que les autres soient prêts déjà à entendre.
Et là, vous partez dans une histoire, je vous dis que c'est un conte, mais qui nous entraîne évidemment sur l'environnement, sur le futur, sur les dangers. Et cette jeune fille voit tout. Mais bon, je ne peux pas vous donner l'issue du roman, évidemment. Il faut aller plus en avant et le lire, mais on plonge dedans comme un thriller. Hein. C'est-à-dire que c'est un tourne-page, vous avancez, vous avez envie d'avoir la suite. C'est formidablement fait. Enfin, vous l'avez...
J'essaie de penser comme un film. C'est voilà. D'abord, un, le suspense, deux, l'histoire d'amour, et trois, après, je balance les infos. Ouais. Mais d'abord, l'histoire d'amour et le thriller qui vont tenir les gens en haleine, parce que lire un livre, c'est un plaisir, c'est un divertissement, ça doit surtout pas être une prise de tête, mais ça doit être aussi un endroit où on va apprendre des choses et on va se poser de nouvelles questions. Donc,
c'est ce qui se passe à la fin du livre, d'ailleurs, voilà, parce que les interrogations sont formidables. c'est le nouveau roman de Bernard Werber, il vient d'arriver à ce roman, Bernard, c'est tout frais, là, tout neuf.
Ça sort toujours début octobre,
c'est
un rendez-vous.
Voilà, c'est son rendez-vous. Et on s'était régalé, souvenez-vous, en mai, vous étiez venu nous voir, et on s'est régalé avec un livre que je conseille, qui est un peu en dehors de vos nouvelles et des trilogies, des cycles que vous avez fait paraître, que j'évoquais tout à l'heure, celui des fourmis, des anges et des dieux, ou encore des deux nouvelles que vous avez fait paraître. Il y avait Encyclopédie du savoir relatif et absolu, que vous avez fait paraître, qui est une espèce d'encyclopédie, un gros livre, qui est paru au mois de mai, qui est une petite merveille. Vous avez dû en vendre beaucoup, parce qu'on pioche dedans comme on veut, c'est à tomber par terre.
Je sais pas, j'ai pas demandé. Pour moi, c'est un livre à côté, en effet.
Oui, comme c'est différent, dit. Mais...
Donc, c'est les romans dans lesquels il y a toute la construction. Ça, c'est plutôt des apéritifs. Ces petites choses qu'on met presque dans ses toilettes pour les feuilleter ou au bord du lit. C'est des petites choses qu'on picore. Alors que le roman, c'est vraiment le gros plat de consistance dans lequel, une fois qu'on est dedans, c'est fait pour vous emporter, vous faire oublier tout.
Bernard Werber avec vous jusqu'à 16h, 32-10.
14h30, 16h. La tête dans les étoiles sur RTL.
RTL qu'on écoute sur 104.3 en Seine-et-Marne à Ville-Maréchal. Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour Laurent, bonjour Bernard. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Voilà.
Merci Jean-Philippe, c'est gentil. Vous êtes un lecteur de Bernard Werber,
oui,
non?
Oui, tout à fait, ouais.
Vous faites partie.
Son écriture, son style et ses origines, parce que je pense qu'il est né dans les Pyrénées, je crois, non?
Toulouse.
Côté de Toulouse, et moi j'ai vécu pas très loin, dans l'Ariège, donc voilà quoi.
Ah oui,
vous êtes de pays là.
Les couleurs locales.
Vous allez vous régaler avec évidemment la lecture du nouveau miroir de Cassandre de Bernard Werber. Oui. C'est dans la lignée de ses romans. Il vous prend par la main, il vous emmène. Oui. C'est son art de faire. D'ailleurs, on l'évoquera tout à l'heure. Mais bonne chance, Jean-Philippe, avec Bernard Werber. Voici la première affirmation sur la vie de celui que vous appréciez.
D'accord.
Bernard Werber pourrait être considéré comme quelqu'un de stupide. Vrai ou faux? C'est difficile, ça. L'élégance, vous direz de...
Mais je vais dire vrai.
Bien joué.
Désolé, Bernard.
Oui, oui, oui.
Si on a mis ça, si vous êtes... Puis en plus, pour Werber, donc tout le monde se fait. Mais comment c'est possible, le truc? Mais si on a mis ça, c'est que ça va beaucoup plaire à Bernard, qui va vous donner le détail et pourquoi on a mis stupide.
Je m'étais amusé à un moment à trouver le vrai sens des insultes. Et donc, stupide, ça veut dire qui s'étonne de tous. D'ailleurs, c'était à l'entrée des arènes romaines, stupet et guintes. Ça veut dire, peuple, préparez-vous à être ébahi, à être émerveillé. Donc, celui qui est considéré comme stupide, c'est celui qui a gardé sa capacité d'émerveillement. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de garder et de transmettre. Mais il y avait d'autres insultes, je ne sais pas si j'ai le temps de développer, qui sont très amusantes, comme imbécile, qui signifie qui marche sans béquille. Donc les gens pensent que marchant sans béquille, ils risquent de tomber. Mais en fait, marcher sans béquille, ça veut dire on a le courage de marcher sans se faire aider des autres. Et la troisième qui est marrante, c'était idiot. Idiot, ça signifie unique, différent. Un idiotisme dans une langue, c'est une particularité. Ça veut dire qu'il ne ressemble pas aux autres. Donc stupide, c'est-à-dire qu'il s'étonne de tout. Idiot, ça signifie qu'il est différent des autres.
Et imbécile,
ça veut dire qu'il a le courage de marcher sans béquille. Donc les trois, en fait, sont des compliments détournés.
Ça s'appelle la sémantique, c'est l'évolution des mots à travers le temps. Et on trouve ça d'ailleurs dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Hein.
Mon héroïne qui se retrouve dans des situations extraordinaires s'accroche aux mots et adore les mots. Je peux en citer quelques-uns. Alors d'abord, il y a maladie qui vient de maladire. Ce qu'on n'arrive pas à dire, ça nous rend malade. Je trouve qui est déjà très porteur d'informations. Puis il y en a des anglais qui sont marrants. C'est golf. Gentleman Only, Lady Forbidden, oui. Parce que c'est un sport anglais, donc ils avaient exclu les femmes.
Fuck.
Fuck qui signifie Fornication Under the Consentment of the King, qui était le papier qui devait fournir les prisonniers pour pouvoir faire l'amour avec leurs femmes. Donc il fallait qu'ils aient une autorisation de faire l'amour. C'est pour ça qu'ils disaient Have you the fuck, qui signifiait peux-tu faire l'amour avec ta femme. Voilà. Et c'est devenu l'insulte anglaise préférée. Il y a gay aussi, qui n'est pas connu, on croit que ça vient de joyeux, et ça veut dire good as you, aussi bon que toi.
Ah, très joli. Ouais. On en apprend des choses à Jean-Philippe. Hein. Ça nous renvoie évidemment. Ce qu'il aime, c'est que vous dites d'ailleurs, Bernard Werber, je suis un vulgarisateur encyclopédique, quelqu'un qui veut rendre compréhensible à n'importe qui, n'importe quelle question. Des questions que vous vous posez.
Oui, on vit avec des petites paroisses où il y a des gens qui ont des connaissances et qui disent vous ne comprendrez pas. Genre les scientifiques, ils ont la blouse blanche, puis ils considèrent, vu qu'ils ont fait des années d'études, ça leur a donné une sorte de primauté. Or je crois que n'importe qui peut se poser des questions, que ce soit sur la médecine, que ce soit sur l'astronomie, que sur la physique. On n'a pas besoin de passer des années à faire des études, il suffit d'être curieux. On revient à cette notion, et d'observer. Dès le moment où on se promène dans la nature, on observe la nature, déjà on apprend des tas de choses. Et c'est à cette connaissance de base, cette connaissance primaire, que j'ai envie d'inviter mes lecteurs, c'est observer, réfléchissez par vous-même, et aussi un troisième élément que je développe dans Cassante, c'est écouter votre intuition profonde. Mm-hmm. Pas ce que les autres vous disent qu'il faut penser, mais ce que vous sentez au fond de vous, et qui va vous apporter des tas d'informations. Restaurer notre petite oreille interne.
Voilà. Jean-Philippe, si vous n'avez pas tout bien compris, bien non, entendu, de ce qu'on vient de dire, avec tous les mots qu'on a expliqués là, vous allez sur le podcast d'RTL, vous pouvez réécouter cette émission quand vous le voulez, 24h sur 24.
D'accord,
vous dites qu'il a parlé de tous les mots, voyons que je note tous les mots qu'il vient d'expliquer à l'instant, Werber. Jean-Philippe, écoutez.
Oui. Le point commun.
Le point commun sur RTL entre Bernard Werber et cet extrait du film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon, avec Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle.
Est-ce que tu connais la question à laquelle personne n'a jamais répondu?
La grande question.
Dis toujours.
Quand on se gratte les couilles, à partir de quel moment est-ce qu'on le fait parce que ça vous démange ou parce que ça vous fait plaisir?
Je viens de vivre des heures épuisantes. Je me suis fait traiter de fantôme toute la journée, j'ai bu un litre de ratafia, j'ai entendu des choses, je ne sais même pas si je les ai vraiment entendues, mais je ne regrette pas.
Je connais l'assassin de mon frère.
Ah bon? Qui c'est?
Mais c'est toi qui me l'as dit.
Ah ben ça m'est sorti de la tête ce que je t'ai dit. Ça te ferait rien de me le redire?
Non, ben peu importe ce que je t'ai dit, ce qui compte c'est ce que je t'ai pas dit.
Mais qu'est-ce que tu ne m'as pas dit?
Ton frère et son copain, je les ai vus tous les deux bien vivants le lendemain du crime.
Ah, quel extrait, wow. Voilà une question qu'on se posait là.
Superbe dialogue.
C'est beau. Ah, c'est le coup de torchon, c'est Bertrand Tavernier. C'est toujours bien écrit, hein. Bien scénarisé, bien dialogué.
Bien joué aussi, parce qu'ils sont impeccables. Musique, c'est la.
Oui, c'est la musique des mots. Ouais. Voilà, c'est Mallarmé. Hein. Noiret et Marielle à l'instant. Le point commun, Jean-Philippe, trois propositions à vous faire, vous aurez 10 secondes. 1. Le frère de Bernard Werber est inspecteur de police. 2. Bernard Werber a fait des études de criminologie. Ou 3, Bernard Werber a écrit un livre sur les tueurs en série.
Je pense qu'il a fait des études de criminologie.
Ouf, bravo, il est
bien joué.
J'étais inquiet pour lui. Oui, j'ai fait 2 ans d'études de criminologie à Toulouse, tout simplement parce que le droit me semblait trop abstrait, accumuler les...
Non, parce que vous avez fait droit avant.
J'ai fait du droit avant. Et je me disais, mais il n'y a aucune application pratique, c'est-à-dire qu'il faut mémoriser des articles et j'y arrivais pas. Et j'ai cherché une application pratique et... La criminologie, c'est passionnant. On vous apprend à devenir un espion, on vous apprend à crocheter une porte, on vous apprend à mettre une bombe, on vous apprend à regarder des empreintes, à faire des fausses signatures. Chaque fois qu'on étudiait un criminel ou qu'on étudiait une escroquerie, en fait, on vous apprenait à le faire. Et donc, ça m'a servi après à faire des héros, à faire des livres. Et c'est fabuleux. Par contre, l'inconvénient des études de criminologie, c'est qu'a priori, ça ne débouche sur aucun métier. Donc, ça donne des points pour être policier ou ça donne des points pour être médecin légiste. Mais il n'y a pas de métier qui sort de l'Institut de criminologie.
Voilà, par contre, les experts, c'est pas encore ça, en fait, hein, série des experts.
Mais on
apprend
exactement tout ce qu'on voit aux experts. C'est vrai que les experts, en fait, c'est pratiquement des cours de criminologie servis à la télévision.
Alors, Jean-Philippe, deux bonnes réponses. Là, j'ai compris que vous étiez fan de Bernard Werber.
Oui,
Deux bonnes réponses avec Bernard. Vous allez directement en finale. Ça, c'est fait pour 2050 euros et 6 affirmations de Bernard Werber sur sa vie, ça va de soi. Et je vous envoie la montre RTL. Hein.
D'accord, oui, il n'y a pas de souci, Laurent.
À tout à l'heure, Jean-Philippe. Merci beaucoup.
Merci
Bernard
beaucoup.
Werber, votre invité sur RTL jusqu'à 16h, c'est en direct.
La tête dans les étoiles. 14h30, 16h, avec Laurent Boyer sur RTL.
Avec Bernard Werber, le nouveau roman Le miroir de Cassandre que l'on évoque aujourd'hui, qui est paru chez Albin Michel. Et Bernard Werber, je vais vous faire un oui-non auquel vous allez répondre pour l'instant donc par oui ou par non. Et après, vous pourrez commenter vos réponses, d'accord?
Ok.
Écoutez bien, vous a-t-on déjà confondu avec quelqu'un d'autre, oui ou non?
Non.
Pensez-vous être un ovni dans le milieu de la littérature?
Oui.
Entretenez-vous de bons rapports avec l'argent?
Non.
Avez-vous toujours un livre de chevet?
Oui.
Y a-t-il une vie après la mort?
Quelle heure il est là? Ça dépend des moments.
Et combien j'ai de temps pour
oui,
en parler?
Oui, hein, c'est oui, ça oui, oui, oui.
Allez, ok.
Des stars et vous, la tête dans les étoiles. Sur RTL.
Avec Bernard Werber et le oui-non de Bernard Werber.
Ouais, c'est pour moi, Atchoum. Il y a trop de R.
C'est pour moi, Atchoum, j'y retourne. Bernard Werber. Bernard, vous allez pouvoir commenter vos réponses. Vous a-t-on déjà confondu à quelqu'un d'autre? Vous m'avez dit non.
Non, par contre, il y a plein de gens qui m'ont dit on me confond avec toi. En général, c'est les cheveux à lunettes.
Vous n'êtes pas confondu avec une fourmi? Donne-moi un coup voilà. d'antenne. Prête-moi ton phéromone. Non.
Avec une tête. C'est une tête d'œuf. Donc, ça prête à confusion.
Allez voir sur le site, il y a la photo. On s'est mis en photo tous les deux avec Bernard Werber, sur RTL.fr, et ça vous renvoie d'ailleurs au livre de Bernard, évidemment. Pensez-vous être un ovni dans le milieu de la littérature? Vous m'avez dit oui.
Oui, déjà parce que je défends les histoires et la mode est depuis très longtemps en France uniquement sur le style. Et donc, il y a une tradition en France de collectionner des phrases très longues, très compliquées, avec plein de mots d'adjectifs, plein d'adjectifs, partie présent, tous ces trucs qui me semblent alourdir. Et moi, mon souci est d'alléger. Donc, quand je travaille mes textes, j'essaie de mettre un sujet, un verbe en complément et d'aller tout de suite à l'essentiel et de mettre la complexité dans l'histoire. Et cette chose qui a l'air évidente semble à contresens complet de toute l'ambiance littéraire française, ce qui fait qu'en général, ils ne comprennent même pas mon travail, ils se demandent pourquoi je fais quelque chose d'aussi clair et d'aussi simple alors qu'eux recherchent la sophistication.
Remarquez, ça vous va bien, hein, 10 millions d'exemplaires vendus en France, si vous voulez.
Je crois que
CQFD.
L'idéal, c'est quand même de faire plaisir au lecteur et c'est pas en l'impressionnant avec des mots très compliqués et des phrases longues qu'on va lui faire plaisir, au contraire, c'est la frime. Voilà, j'essaie d'enlever toute la frime.
Ça va dans votre sens de vulgariser, évidemment.
Voilà.
Et alors, juste un mot, j'ai pas évoqué tout à l'heure, on aurait pu parler du plan géométrique dont vous travaillez, de votre façon de travailler vos romans. Comment vous faites pour...
C'est-à-dire que je travaille à fond la structure. Pour moi, un roman, c'est comme un être vivant. Il y a un squelette et ce que vous voyez, c'est la peau. Là, je vois votre peau, mais en fait, ce qui vous fait que vous tenez debout, c'est le squelette. Donc, la structure géométrique, c'est le squelette, c'est-à-dire c'est ce qui est dessous, que vous ne voyez pas, et qui va faire que vous allez être emporté, et qu'au final, vous allez être surpris. Et cette mécanique-là, elle me prend beaucoup plus de temps que la peau. Un peu comme, pour reprendre un autre exemple, dans une maison, c'est les fondements et le soutien qui font que le building tient, mais quand vous rentrez dans le building, vous voyez la moquette et vous voyez la tapisserie. Et vous allez parler, vous allez dire que c'est beau si vous voyez une jolie moquette, une tapisserie, mais ça correspondrait juste à ce qui est apparent. La vraie solidité vient de la structure. Et j'adore faire des structures géométriques complexes qui vont amener les gens dans des mécanismes qui vont les surprendre à fond au final.
Et comme Agatha Christie, dont vous avez décrypté les mécanismes.
Oui, quand j'ai vu Agatha Christie, je me suis dit, ça me procure une émotion très forte. Alors j'essaie de décomposer comment elle fait pour m'apporter cette émotion. Et après, j'essaie de le reproduire. C'est un mécanisme de fausse piste et un mécanisme d'approfondissement psychologique. Et ça se travaille, ça s'améliore. Et ça fait partie de l'artisanat du romancier. C'est-à-dire voir comment travaillent les autres artisans et essayer d'améliorer ce qu'ont fait nos aïeux. Comme j'espère qu'il y a d'autres auteurs qui vont améliorer ce que je fais, qui comprendront ce que je fais et l'amélioreront.
Entretenez-vous de bons rapports avec l'argent, mais dit non.
Pour moi, l'argent, ça veut dire la tranquillité de continuer à faire mon métier. Maintenant, tout ce qui est banque, portefeuille, tout ça, j'essaie de ne pas m'en occuper. Et je pense que je le donne tout de suite à d'autres gens à faire et que j'aime me préoccuper que de mes personnages et de mes histoires. Et puis, je n'ai pas aussi de plaisir au luxe. Donc, j'ai un petit appartement, j'ai une smart et ça me suffit largement. Tout le reste...
Tout le reste, c'est les agents qui sont partis avec.
Peut-être, mais je crois qu'il faut vivre avec ce dont on a besoin, pas avec ce qui impressionne. Je suis contre la frime, voilà.
Pas d'ostentation, pas de bling-bling.
Voilà, pas de bling-bling.
Avez-vous toujours un livre de chevet? Ça, c'est la question qu'on se posait avec Gérald. On vous pose cette question à vous. Vous m'avez dit oui, mais quel est-il?
Alors...
Ou plusieurs.
Oui, il y en a un que j'adore qui s'appelle L'éloge de la fuite de
Laborie.
Henri Laborie. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Henri Laborie et de discuter avec lui de ce livre. Et j'étais très étonné parce que lui ne l'aimait pas ce livre. Et c'est très étrange de tomber sur votre idole qui vous dit ouais, mais moi, ce livre, pour moi, c'est un livre mineur. Et je me suis dit, c'est pas aperçu qu'il avait fait un livre extraordinaire. Et je lui ai parlé de son livre. Je lui ai dit, je dois vous dire ce que j'ai ressenti en lisant L'éloge de la fuite. Pour moi, c'est la réponse à toutes les questions. C'est qu'il y a trois choix, soit on combat, soit on inhibe, soit on s'enfuit. Mmh. Et l'écriture, l'art, partir en voilier, voyager, ce sont des fuites honorables. C'est après l'autre choix, sinon c'est encaisser les coups et puis se faire un ulcère à l'estomac et avoir des maladies. Ça, c'est pas la bonne solution. Et se battre, au final, on finit toujours par tomber sur plus fort que soi. Donc se battre et inhiber, c'est nul. Et la fuite me semble la bonne solution.
Ça s'appelle Éloge de la fuite.
Éloge de la fuite d'Henri Laborie.
Henri Laborie. Vous le trouverez en livre de poche. Je vous le conseille. C'est une très très bonne lecture. Y a-t-il une vie après la mort? Évidemment, elle était pour vous cette question. Bon alors j'ai 4 heures, allez-y. Oui, vous m'avez dit.
C'est pas seulement l'heure. D'ailleurs, ça c'est marrant, il est 15h15. Chaque fois que je regarde l'heure, il est deux fois le même chiffre. Je peux vous expliquer pourquoi. Ça sera peut-être le thème d'un de mes prochains romans.
Il est chronopathe.
Y a-t-il une vie après la vie? C'est ça, hein, après la mort?
Oui.
Oui, après la vie, donc. Je dis oui, parce que même s'il n'y en a pas, c'est bien d'y penser. C'est-à-dire, c'est bien de se dire, ça va pas s'arrêter. On n'est pas qu'un tas de viande, ça va pas s'arrêter dès le moment où le tas de viande va tomber en panne. Il y a autre chose qui doit survivre. Et il faut le croire, et je crois que c'est ce qui nous permet d'accepter la mort, c'est ce qui fait qu'on n'aura pas peur de la mort, c'est qu'on se dit, notre âme est plus forte que notre chair.
Oui, c'est le moyen d'accepter le passage, enfin,
l'absence
de vie, on va dire.
Et c'est le moyen de donner une perspective à sa vie. C'est-à-dire, se dire, ça, c'est une vie parmi tant d'autres. Même si je la foire, il y en aura d'autres où je pourrais me récupérer. Et il y en avait d'autres avant, il y en aura d'autres après, c'est un épisode.
Alors, je rajoute une question, est-ce que vous êtes croyant?
Alors là, j'ai envie de répondre, non. Parce que croyant, ça veut dire que je sais. Soit je sais qu'il y a Dieu, soit je sais qu'il n'y a pas Dieu. Et les deux positions me semblent des positions de prétention, là encore. Ma position, c'est agnostique. Je ne sais pas, je me renseigne, je me pose des questions, et j'écris des livres où mes personnages se posent des questions et commencent à trouver des débuts de réponses. Pour moi, toute personne qui dit « je sais qu'il y a Dieu » est une personne qui a juste une intuition forte, qui la transforme en certitude. C'est tout.
Bernard Werber, votre invité jusqu'à 16h, c'est La Tête dans les Étoiles, c'est RTL.
Pour une connexion directe avec toutes vos stars préférées et Laurent Boyer, RTL.fr, La Tête dans les Étoiles.
On va faire un tour du côté de Montluçon dans l'Allier, on écoute RTL sur 104.1. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Je vous présente Bernard Werber.
Bonjour Bernard et bonjour à vous Laurent.
Et bienvenue Anthony, merci d'être avec nous. Bonne chance avec Bernard Werber. Anthony, baissez un peu le son de votre radio, s'il vous plaît, si ça vous dérange.
Il n'y a pas de radio.
Il n'y a pas de radio, d'accord. Donc c'est mes écouteurs, voilà. Anthony, bonne chance, voici la première affirmation. Bernard Werber a reçu le prix Fémina. À votre avis, c'est vrai ou faux?
Le prix Fémina?
Oh. Oui.
C'est faux.
Vous avez raison. J'ai pas de papa, j'ai pas de maman, j'ai pas une peau. Bernard n'a jamais reçu de prix littéraire. Quoi, le prix littéraire officiel? Le prix des... Non, mais je veux dire officiel.
Ah, officiel. Mais il n'y en a aucun d'officiel. Vous croyez que le Goncourt, c'est officiel? Non, c'est que des arrangements mafieux entre différents groupes.
Ah, voilà, ça c'est fait. Vous risquez pas d'en avoir, hein, c'est lundi prochain. Vous êtes cuit.
Mais non, il n'y a rien d'officiel.
Non, mais je veux dire par là. Attendez, Anthony. Non, je vais rassurer le monsieur parce que j'ai piqué son ego. Alors. Il a reçu le prix des lecteurs, Elle, Science et Avenir, prix du livre de poche.
Oui, tous les prix honnêtes
publics.
Qui sont, dans lequel c'est les lecteurs qui votent, c'est bon. Et tous ceux où c'est les petits arrangements entre amis, en effet, je ne fais pas partie du groupe de copains qui mordent dans la tarte. Donc, non, je n'aurai pas, non, ça c'est sûr.
Ah oui, vous êtes sûr. Bah, maintenant, avec ce que vous venez de dire, remarquez, vous êtes tranquille, vous êtes à l'abri pour un certain nombre d'années.
En sortant en octobre, j'ai la garantie de ne pas avoir les prix, comme vous dites, officiels, qui sont juste les prix à la mode qui sortent à ce moment-là pour des raisons publicitaires. Mais ça ne m'intéresse pas.
La tête de votre éditeur, Albin Michel, ils ont l'air ravis de ce que vous dites.
Non, mais d'ailleurs, regardez, la plupart des gens qui ont ces prix n'entendent plus parler après. C'est-à-dire qu'ils font un bouquin et puis ils disparaissent. Ce qui montre bien que non seulement, soit ça ne leur porte pas chance, soit ce n'est pas les bons. Voilà, je ne dis plus rien après.
Vous savez pourquoi on a mis le prix Fémina? Parce que vous rêvez en revanche d'un monde de femmes.
Oui, j'avais écrit Demain les femmes. Voilà. Il me semble que de toute manière, biologiquement, les hommes sont amenés à disparaître. Bon, ça va mettre un certain temps. Et donc, la valeur sur lequel il faut investir, c'est les femmes, oui.
Vous êtes comme Aragon, quoi.
Non, mais ça m'amusait quand j'étais journaliste scientifique, que les gamètes masculines devenaient de plus en plus fragiles et que les gamètes féminines étaient en train de survivre plus longtemps, d'imaginer comment on allait évoluer vers un monde où il y aurait peut-être 80, 90%, voire 100% de femmes, sachant que certaines espèces étaient bisexuées, sont devenues monosexuées, s'en portent pas plus mal, à commencer par les fourmis. Voilà. C'est dit.
Anthony, écoutez.
Le point commun.
Le point commun entre Bernard Werber et cet extrait du film de Jean-Marie Poiret, Mes meilleurs copains, avec Jean-Pierre Darroussin, Gérard Lanvin et Philippe Corsan, regretté.
Parce que c'est un super Zippo et j'y tiens vachement.
Mais je m'en fous de ton briquet, moi. Et on aura une petite explication tous les deux, hein, tout à l'heure.
Excusez-moi.
Ça, vous le mettez dans la cuisine directement, c'est super fragile, c'est des céramiques anciennes.
Là, je vois déjà l'esprit. Ça va être encore l'engueulade sectaire et compagnie, ça va être encore de ma faute, comme toujours.
Moi, tu peux monter. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est de ma faute à moi si t'as été offert une offre de 600 000 à deux fumiers de stoppeux.
Oui, mais t'as raison, Richard, bien sûr, les blagues, c'est des fumiers, c'est tous des voleurs.
Mais t'es complètement con, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir qu'il soit black? Je t'ai déjà dit, les stoppeurs, non, quelle que soit la couleur, les stoppeurs, c'est la plaie.
Alors là, moi, il vaut mieux que je conduise plus, hein, parce que je peux pas pratiquer le racisme anti-jeune.
Arrête, Danny, quoi. Arrête de jouer les responsables. Merde! Que tu adoptes cette attitude avec ton fils, c'est déjà navrant, mais avec moi, tu laisses tomber, hein. Ça marche pas, hein. Ça fait 5 ans que tu vis ici avec Sébastien. En échange, je te demande rien, si ce n'est que de faire vaguement le livreur de temps en temps. Alors si même ça t'y arrive pas, tu vas avoir un gros pépin, Danny, hein.
Excusez-moi de vous déranger au milieu de votre boucan épouvantable, là, mais les rapports patron-ouvrier entre amis, je ne supporte pas.
C'est excellent, le choix des scènes, hein, parce que c'est vraiment très bien.
C'est extrait d'un film culte maintenant qui s'appelle Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret. C'est vrai que c'est formidable, c'est bien dialogué aussi, ça. Alors, le point commun, Anthony à Montluçon, entre Bernard Werber et cet extrait de film, j'ai trois propositions à vous faire. Bernard Werber a traversé les États-Unis en autostop. Deux, Bernard Werber ne prend jamais d'autostoppeur. Ou trois, Bernard Werber a vécu dans une communauté hippie.
Oula, je vais dire qu'il ne prend jamais d'autostoppeur. Ah,
alors ça, écoutez, comme il dit dans sa Smart, il a au moins une place, donc ça peut peut-être lui arriver. En revanche, la bonne réponse était Bernard Werber a traversé les États-Unis en stop. Oui, ça c'est vrai, vous l'avez fait en 1980, Bernard.
Oui, avec un ami, on avait décidé de faire les États-Unis sur 2 mois. Dès qu'on est arrivé, on s'est fait détrousser, on a tout perdu. Il nous restait 100 $ et on s'est dit, avec 100 $, on va essayer de tenir 2 mois et de passer de la côte est à la côte ouest, ce qu'on est arrivé à faire, mais en vivant comme des clodos et en dormant dans des endroits assez insalubres.
Vous n'avez pas de travail d'ailleurs, parce que vous n'aviez pas de green card, donc vous ne pouvez pas travailler.
Et le copain était breton et il m'a dit, tu vas voir un réseau de copains qui nous met en contact, et les restos français de New York et tout ça, et chaque fois qu'on arrivait, en effet, on tombait sur des bretons installés à New York dans les différentes villes, mais dès qu'on demandait du boulot, ils venaient nous dénoncer à la police pour essayer d'avoir des points, ou je ne sais pas comment ça marche dans leur système, donc on se retrouvait à se faire courser par la police. J'ai dit que je crois que tes copains bretons, là, la solidarité, ils ne la jouent pas à fond. Et finalement, si quand même, petite anecdote bizarre, on est tombé une fois dans une croissanterie à Los Angeles. Il nous a dit, vous êtes français, vous voulez un job? Pas de problème, 200 $ par jour. Enfin, ben oui, très content. Puis on commence quand? On fait, ben demain. Et puis vous inquiétez pas, il y a des batteries anti-aériennes. Alors je n'avais pas compris exactement de quoi il parlait. J'ai fini par comprendre, c'était la récolte de marijuana. Ils avaient des champs de marijuana avec des tourelles anti-aériennes. C'était derrière. Et c'était le job qu'ils proposaient aux Français qui arrivaient comme ça. Alors on a dit, bon, ben, peut-être pas là. Donc, ce qui fait qu'on a terminé quand même dans la misère. On n'a pas pris ce bon job proposé par cette charmante croissanterie française. Et là, ils étaient souriants et sympas.
C'est marrant parce que ça fait partie d'ailleurs un petit peu du miroir de Cassandre. C'est-à-dire que ça vous a donné une expérience de la clochardisation.
Bah oui, c'est bien. C'est bien d'aller voir en bas ce qui s'y passe pour comprendre ce que la souffrance des gens qui n'ont plus rien. Et quand vous vous retrouvez dans cette situation et que vous avez la chance en plus d'y aller sans y rester, c'est une expérience extraordinaire. Ordinaire. Et j'ai eu envie de faire partager aux gens ce que j'ai ressenti à ce moment-là, la peur de ne pas manger, la peur de n'avoir nulle part où dormir, la peur qu'il pleuve, la peur d'être attaqué par les autres SDF. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut savoir, ça existe. Et que, voilà, je pense qu'il faut ressentir une fois dans sa vie pour savoir de quoi on parle.
Anthony, ça nous fait une bonne réponse à Montluçon, c'est pas suffisant pour rattraper Jean-Philippe.
Oui.
Mais je vous envoie la montre RTL à Montluçon, il n'y a pas de souci. Hein.
J'avais juste une petite question.
Allez-y.
Est-ce que Bernard prend des autostoppeurs quand même?
Je les prends, oui, je suis désolé. Hein.
Non, mais
je les prends pas systématiquement, mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont l'air vraiment épuisés et puis qui en ont marre, ça me rappelle quand même le moment où j'étais moi-même. Voilà, donc je les prends.
On est d'accord avec ça.
Merci.
Salut Anthony, merci de votre coup de fil. Bonne journée.
Des stars et vous, la tête dans les étoiles. sur RTL.
Et c'est Jean-Philippe de Ville-Maréchal en Seine-et-Marne qui a décroché le pompon avec deux bonnes réponses tout à l'heure directement, donc qualifié pour 2050 euros pour 6 affirmations de Bernard Werber. Vous êtes là Jean-Philippe?
Oui, je suis là Laurent.
Eh bien écoutez, bravo.
Oui.
Hein. Bravo, vous êtes un lecteur de Bernard, toulousain de pays donc, ouais. Et c'est vous qui êtes en finale. Okay. Donc, bonne chance avec Bernard, et c'est Bernard Werber qui vous pose la première affirmation. Bernard, c'est à vous.
Pour
la, oui, la première.
Donc je lis hein.
Oui.
J'ai une mémoire d'éléphant, je ne retiens rien quand je. Ah, si, je m'arrête là, je m'arrête.
Voilà. Vous retenez rien, c'est vrai, ouais.
Je n'ai pas même assez, c'est bien. On va lui donner, ouais, ça c'est bien parce que vous êtes très drôle là, Jean-Philippe. C'est vrai qu'il a pas retenu ce que je lui ai dit. Ouais. Je ne retiens rien, donc vous pouvez continuer maintenant, Bernard. Je ne retiens rien.
Quand j'étais petit, je notais tout et j'ai toujours tout continué. C'est ça. Non, c'était la réponse qu'il devait trouver.
Oui, oui. Alors donc bon, oui. Mais c'est vrai que vous notez tout. Vous notez.
Je retiens rien comme c'était écrit dessus. Même pas que vous m'aviez dit qu'il fallait pas noter.
Non mais attendez, okay. Et vous êtes même, vous notez vos rêves également.
Oui, tous les matins, quand je m'en souviens, je les note. Mais c'est bizarre, c'est comme si le passé s'effaçait au fur et à mesure que j'avance. Mais
comme le rêve de Cassandre d'ailleurs, voilà, vous dites que vous avez eu un rêve incroyable, c'est que vous vous réveillez, et ça me rappelle, je vais ressortir cette phrase des lueurs, vous empruntez la terre à vos enfants, c'est-à-dire voilà. Que vous vous retrouvez être jugé par des bébés à votre réveil.
Alors ça c'est une scène donc, du miroir de Cassandre que j'ai enrichi d'un rêve. C'est un ami qui m'avait dit un jour, on va, grâce à la cryogénisation, se mettre dans
c'est
de la glace.
C'est Hibernatus de Funès.
Voilà, et on revient 200 ans plus tard, et là, on pourra se soigner. Et j'ai imaginé que mon héroïne, Cassandre, en effet, se projette dans le futur, et au moment où elle se réveille, 200 ans plus tard, en fait, elle tombe devant des gens qui lui font un procès pour lui reprocher d'avoir foutu en l'air la planète. Voilà. Ils lui disent, en tant que représentante de cette génération qui nous a laissé tomber, qui a tout gâché, vous allez maintenant devoir rendre des compte. Et c'est ce qui va se passer. Ça, c'était un rêve. J'ai imaginé que nos petits-enfants viennent nous demander des comptes. Et je crois qu'il faut y penser. Mmh. Il faut imaginer ce procès que les bébés viennent exiger de nous qu'on laisse une planète correcte.
Mmh. Moi, pas passé mes nuits avec lui, moi, parce qu'il a l'air bizarre, hein, Bernard Werber.
Ça,
je vous
finit
le
bien,
dis.
Ça finit bien,
ça
parce
finit bien, c'est vrai.
Elle va arriver à expliquer pourquoi la planète a été foutue en l'air.
Deuxième affirmation, Jean-Philippe, on vous a donné 50 euros sur le fait. La deuxième, vous lisez, Bernard, que ce qui est souligné.
D'accord.
Je l'informe, notez-le quelque part. Vous me le faites dans deux secondes.
J'ai arbitré des matchs de foot.
Vrai ou faux?
Vrai ou faux, voilà.
J'ai pas compris.
J'ai arbitré des matchs de foot.
Oh, ça veut dire que c'est faux, ça.
Oui. Non, mais...
Vous avez jamais joué au foot, en fait.
Non,
pas ça.
Oui, en fait, même, je me retrouvais souvent en goal, et j'amenais un livre, les livres d'Agatha Christie, que je lisais à la place du goal, ce qui a laissé passer pas mal de buts. Non, mais on peut pas s'intéresser à tout, on peut pas être bon partout. Dans ma prochaine vie, je m'intéresserai au football, mais dans celle-ci, non.
Vous dites, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous étiez un enfant qui était un petit peu à part. Hein, c'est-à-dire que vous n'apparteniez pas à une bande, vous n'aimiez pas vous faire remarquer. Et vous ne jouiez pas au foot?
Oui, mais ma fonction était celle de barde, à savoir je raconte des histoires et j'intéressais les autres en leur racontant des histoires fantastiques et d'horreur. Et j'ai raconté des trucs très très hard, précisément pour les tenir en haleine. Et j'ai dû commencer ce travail de raconteur d'histoires dès l'âge de 8 ans. Dans un cours de récréation, ils se sont aperçus que quand je racontais des choses, ça leur donnait envie de savoir ce qui allait se passer après. Ce qui montre que finalement, on arrive déjà par moments avec certains outils. Ou alors peut-être dans la vie précédente, je tenais vraiment à devenir auteur. Et pas footballeur. Ma fonction au sein du groupe était le raconteur d'histoire.
Alors, le barde, assurance tout risque, voici la troisième affirmation, c'est à vous.
J'ai toujours... Je la découvre en même temps, hein, et donc je m'arrête là. Elle est bizarre votre question, il n'y en a pas une autre après.
Attends, vas-y, allez-y.
Je suis obligé de les lire toutes. Hein. J'ai toujours été très à l'aise avec les filles.
Vrai ou faux?
Vrai ou faux?
Non, ben c'est faux.
Mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher ça?
Ah, mais on s'informe, nous, Bernard.
Alors, je lis ce que vous m'avez fait dire.
Non, ben vous le savez jusqu'à mieux que nous, c'est vous qui l'avez dit.
Jusqu'à ce dans quel film. Ah, oui, non, mais j'étais très émotif, mais voilà. On l'est tous. Laurent, vous l'êtes pas émotif?
Ben toujours.
Non, mais c'est vrai que j'ai compris qu'en fait, le jeu intéressant, c'est d'arriver à comprendre les femmes, et j'ai compris que j'allais avoir du travail, et c'est une vie n'y suffit pas, et c'est ça qui est passionnant, c'est un vrai enjeu, je trouve ça beaucoup plus intéressant que le football, d'ailleurs s'intéresser aux femmes, si je peux dire.
Toujours dans les rondeurs. Alors, Jean-Philippe, pour l'instant, 150 euros. Attendez, mais vous m'avez fait un beau parcours, Jean-Philippe, l'air de rien.
Il connaît mieux ma vie que moi-même.
Attends, bien. Jean-Philippe, oui, pour l'instant, 150 euros, 3 bonnes réponses sur 3 à Ville-Maréchal en Seine-et-Marne. Oui. Concentrez-vous, je reviens dans un instant avec Bernard Werber.
RTL. La tête dans les étoiles.
On est avec Jean-Philippe à Ville-Maréchal qui a déjà 3 bonnes réponses avec, sur 6 avec Bernard Werber. Ça lui fait 150 euros. Jean-Philippe.
Oui, Laurent.
Voici la quatrième affirmation. Et Bernard Werber, maintenant, a tout compris. Et il va vous lire la question. Il va vous lire la réponse.
Soulignée. Comme Frédéric Dard, que j'admirais beaucoup, ce qui est vrai, j'ai habité en Suisse.
Vrai ou faux?
Je vais dire que c'est faux.
Oui, j'ai toujours payé mes impôts que en France. Et mais Frédéric Dard, par contre, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire la technique de travail de 8h à 12h30 tous les matins. Parce que dans un article, dans Paris Match, il ne faut pas le noter, il disait, pour moi, un vrai écrivain, c'est un type qui travaille tous les jours à heure fixe, et de préférence le matin. Et je l'ai pris au mot.
Vous êtes nombreux à faire ça. Hein. Il y a beaucoup d'écrivains français.
8h à 12h30. Il y a ceux qui travaillent le soir aussi. Mmh. Parce que comme ça, ils ne sont pas dérangés par le téléphone. Moi, je coupe le téléphone et de 8h à 12h30, tous mes amis savent, faut pas me déranger, je suis en plongée sous-marine, je suis en pleine écriture.
Oui, et vous étiez fan de Dard,
d'humour. Parce qu'il fait rire, c'est vachement difficile de faire rire. Et lui, il me faisait rire à toutes les pages. J'adorais ce bonhomme, je trouve que c'est un type généreux et intelligent. Et puis, il m'a appris des tas de choses. Il m'a appris à écrire. J'ai commencé à écrire avec lui.
Et ce qu'on sait peu, Jean-Philippe, sur Bernard Werber, c'est que Bernard Werber adore raconter des histoires. Et des histoires drôles. Ça, c'est votre truc aussi, Bernard.
J'aime les raconter, mais c'est pas dit forcément qu'elle marche. Hein.
Attendez, si maintenant
vous
qu'on
que je me lance. Hein.
Allez, allez-y, vous en avez une pour nous. Allez.
Alors,
il y a les grosses têtes qui arrivent bientôt, faites gaffe. Hein.
C'est une blague en plus qu'on m'a raconté hier. Allez. Oui. Donc, c'est dans une soirée très chic.
C'est l'histoire de Toto.
Non. C'est dans une soirée très chic. Il y a une vieille dame de 80 ans qui est toute moche et qui est remplie de bijoux. Et puis, elle dit, si vous devinez ce qu'il y a dans ma main droite, là, dans mon poing fermé de la main droite, eh bien, je fais l'amour avec vous. Donc, si une personne arrive à trouver ce qu'il y a dans ma main droite, je fais tout de suite l'amour avec cette personne. Et là, il y a peu de gens qui réagissent. Puis, tout d'un coup, il y a un type derrière qui dit, oui, moi, je sais ce qu'il y a dans votre main droite. Il y a un éléphant. Et la femme a dit, écoutez, c'est pas exactement ça, mais on peut malgré tout considérer que la réponse est acceptable.
Que c'est bien. Que c'est drôle.
Ça vient avec votre jeu, c'est pas exactement ça, mais on dirait que c'est acceptable.
Jean-Philippe, 200 euros, 4 bonnes réponses sur 4. Voici la cinquième affirmation. C'est à vous, Bernard Werber, pour la cinquième.
J'aime aller jouer dans les casinos.
Vrai ou faux?
Je vais dire vrai.
Mais non, bah en fait ça me donne une image de type tout tristouné. Mais pour moi ça m'embêterait vraiment de gagner de l'argent comme ça, parce que je considère qu'on a tous un capital chance. Je préfère l'utiliser dans mon travail que dans les casinos. Cela dit, les quelques fois où j'ai joué, chaque fois j'ai gagné, ça m'a bien énervé. Et chaque fois je me suis débarrassé de l'argent comme c'était de l'argent maudit.
Vous avez redonné les jetons, paraît-il.
Oui, hein, voilà. Mais bon, c'était pas des grandes sommes. Hein. Oui. Mais gagner comme ça me semble bizarre. C'est comme si on faisait une entourloupe avec le bon Dieu ou avec les anges. C'est pas normal. Donc
c'est la chance du gagnant en plus, du débutant.
Et puis du type qui a pas envie de gagner. C'est quand même rare des gens qui viennent jouer au casino qui ont pas envie de gagner. Alors, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que je gagnais. Dès le moment où il y a lâcher prise, vous obtenez ce que vous voulez pas. Dès que vous voulez, vous l'avez pas. Mais dès que vous le voulez pas, vous l'avez. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Oui, bien sûr.
Mais donc je joue pas au casino.
Allez, sixième affirmation, Jean-Philippe. Écoutez.
À 7 ans, j'avais déjà écrit une nouvelle.
Oui.
Oui, alors, c'était une aventure d'une puce qui escaladait un corps humain. Non, mais c'est bon, elle est valable.
Oui, bien sûr, bah oui. Mais vous avez posé une autre question, forcément, elle est valable.
Mais oui, parce qu'en
le
lisant...
Vous avez aidé, Jean-Philippe.
Mais en le lisant, je me suis dit, c'est mieux quand même de modifier le truc.
C'était quoi la vraie question?
Et c'est les aventures d'une puce.
Attends, je vous pose la vraie question, Jean-Philippe. Oui. En fait, ce qu'il y avait décrit, c'est, à 7 ans, j'avais déjà écrit un livre sur les fourmis. Et donc, évidemment, la réponse, c'était faux.
Mais il était bon, il avait compris.
Et là, il vous a dit, à 7 ans, j'avais écrit une nouvelle. Oui, et là, forcément, obligé de dire oui parce que c'est vrai. Donc il vous a fait gagner 50 euros. C'était les aventures d'une puce, une nouvelle de 10 pages.
Oui, c'est une puce qui partait des pieds et qui faisait une escalade comme l'Himalaya sur un être humain.
Non, ne parlez pas de ça. Vous êtes prétentieux en parlant d'Himalaya, faites gaffe. Alors donc, elle montait, vous voulez dire, jusqu'à la tête, celle-là.
Le personnage n'était pas couché, il était debout.
Ah.
Ce qui change tout. Et oui, elle montait et puis elle finissait dans la tête comme si c'était une forêt. Et ce qui était amusant, c'est que nous étions traités, nous, en tant qu'êtres humains, comme une montagne. Et voilà. Mais la première phrase était une grande erreur parce que... Donc, j'avais 7 ans, je connaissais pas tout. Et la première phrase, c'était « Je suis né d'une mère pucelle et d'un père puceau ». Et ça avait fait beaucoup rire le prof qui m'avait dit « Là, il y a peut-être un truc à revoir ».
J'ai bien rigolé.
Il m'a dit « J'ai bien rigolé avec ça ». Donc après, il avait demandé aux autres élèves de faire le même exercice, c'est-à-dire se mettre à la place d'un animal et de vivre une aventure à la place d'un animal.
Et alors, dites-moi, vous avez mis 6 ans pour revenir aux fourmis. Vous avez mis 6 ans à vendre le premier « Les fourmis », qui est une trilogie.
Non,
mais...
j'ai mis 12 ans à l'écrire et 6 ans à trouver un éditeur.
Voilà.
Faut dire que le sujet des fourmis, tout le monde me disait, mais tout le monde se fout des fourmis, on voit pas quel intérêt il y a de parler de ça. Et il n'y a eu vraiment qu'un seul éditeur, c'est le chef d'Albin Michel, Richard Ducousset, qui, pour malgré l'avis du comité de lecture d'ailleurs d'Albin, l'a publié. Donc voilà, je suis encore avec eux. Je suis reconnaissant à cet individu d'avoir repéré le potentiel d'un sujet qui avait l'air complètement inintéressant. Mais même mes collègues, quand j'étais à l'Obs, me disaient, mais attends, tout le monde se fout des fourmis, tu n'arriveras jamais à être... publié. Voilà. Et je crois que c'est parce que ça a l'air difficile qu'il faut y aller, il faut sortir des chemins battus. Il faut tout faire pour ne pas faire comme les autres. Si c'est pour parler...
Pour avoir une niche, être créatif et être voilà. personnel, oui, bien sûr.
Si c'est pour faire les livres qui ont déjà été faits 10 000 fois, on ne s'en sort pas. Quoi. Moi, si je dois donner un conseil aux nouveaux jeunes auteurs, c'est démarquez-vous, trouvez un chemin à vous qui ne ressemble à aucun autre.
Jean-Philippe.
Oui, Laurent, donc, merci
250
beaucoup.
Euros, l'air
oui.
de rien.
Merci beaucoup. Merci
Bernard. Hein.
Également à Bernard.
Bah,
hein,
oui.
J'étais ravi de partager ce moment avec vous.
Il me font signe, c'est moi qui vais devoir payer de ma poche. Bon, allez, d'accord.
250 euros, vous pourrez vous acheter le bouquin de Bernard, tranquille.
Hein,
vous qui connaissez les précédents, vous allez vous régaler, vous pourrez l'offrir à vos potes. Merci Jean-Philippe.
Oui, merci à vous.
Une belle journée, bon week-end surtout. Avec 250 euros, ça va, c'est un bon week-end qui s'annonce pour lui. Bernard Werber, ça s'appelle Le miroir de Cassandre. C'est le nouveau roman de Bernard Werber chez Albin Michel. Où là, évidemment, il va vous entraîner, vous emmener comme à son habitude. On en a beaucoup parlé, on vous a donné des détails à propos de ce livre tout à l'heure qui commence par « Il sera une fois ». Ça veut déjà tout dire. Bernard, vous êtes déjà en écriture, je présume, pour le prochain ?
Ah oui, là je suis en train de faire la structure du prochain roman qui sera un Isidore et Lucrèce. Donc une enquête scientifique avec... une découverte extraordinaire que personne ne connaît.
Ça sera pour le mois d'octobre prochain.
Oui, si hein tout va bien.
Voilà, ça sera pour le mois d'octobre. Merci beaucoup Bernard, on s'est régalé. Je me suis régalé avec votre livre, comme d'habitude. Je suis un de vos lecteurs depuis bien longtemps. Et voilà, merci d'avoir donné cet après-midi ce que vous êtes sur l'antenne de RTL de 14h30 à 16h. Merci beaucoup,
Laurent.
Rendez-vous l'an prochain pour le prochain.
Avec
on est
plaisir.
Très impatients. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le grand studio Les Grosses Têtes. Lundi, on fait une spéciale qui va probablement vous intéresser dans le détail sur Mike Brandt. On va fêter l'anniversaire de sa mort. Il y a un livre qui est paru qui est très très intéressant sur le sujet. Donc son auteur viendra nous en parler. Excellent week-end à toutes et tous. RTL, il est 16h.